Un accord concernant l'exploitation de minerais ukrainiens par les États-Unis est presque conclu. Il vise à compenser l'aide militaire américaine dont a bénéficié Kiev au cours des 3 dernières années. On fait donc un point sur la situation en Ukraine et sur cet accord avec Gérard Vespierre, géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Gérard Vespierre, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Ukraine hein, et des négociations qui tournent autour depuis son intronisation en tant que président des États-Unis. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid. Il devrait rencontrer Volodymyr Zelensky dans les prochains jours. Il devrait également rencontrer Vladimir Poutine, le président russe. Mais il y a un autre sujet qui a attiré l'attention des observateurs. C'est cet accord sur les minerais en Ukraine et le fait que l'Europe n'obtienne rien. Alors, pour commencer, Gérard Vespierre, en quoi consiste cet accord sur les minerais? Que veut-il dire?
Plusieurs choses. La première, je dirais avec un zeste d'humour, Trump a quand même 36 jours de retard, n'est-ce pas? Il devait arrêter la guerre en 24 heures. Donc, cela fait maintenant une trentaine de jours qu'il est président et les armes retentissent toujours. Donc, plus sérieusement, mais c'est quand même, disons, pour montrer aussi les limites du discours électoraliste. Les ressources ukrainiennes sont diverses, elles sont effectivement importantes, elles sont basées sur la spécificité géologique de l'Ukraine, qui est un terrain qui a pratiquement pas bougé par rapport à ses voisins d'un point de vue géologique, je dirais presque géophysique, pas de perturbations, de tremblements de terre, etc. etc. Bon. Donc, ce qui fait que la richesse du sous-sol est restée absolument intacte. Et alors les États-Unis, donc deuxièmement, après cette avalisation de la richesse, ne sont pas les seuls. La France parle avec Zelensky et l'Ukraine depuis le mois d'octobre sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'accès à obtenir des concessions d'exploitation de minerais avec un partage équitable. Donc de ces recettes d'exploitation et ça fait troisièmement un apport économique important à l'Ukraine aussi. Cela va créer des milliers et des milliers d'emplois. Et quatrièmement, ce n'est pas simplement un accord ou ce ne sont pas des accords commerciaux seulement. Le fait d'avoir des intérêts financiers américains et donc des citoyens américains aussi impliqués crée en fait une sorte, j'allais dire, d'OTAN civile. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une implication économique à grande échelle des États-Unis, eh bien aussi, c'est une façon de donner à l'Ukraine un gage de sécurité. À partir du moment où les États-Unis sont impliqués lourdement dans un pays, il devient plus difficile pour un voisin, quel qu'il soit, d'intervenir dans ce même pays. Donc, c'est un gagnant-gagnant pour l'Ukraine d'avoir une augmentation de son activité commerciale, industrielle, augmentation de son emploi, augmentation de sa richesse, et aussi la protection de celui qui exploite d'un point de vue, je dirais, sécuritaire, pour éviter le mot militaire.
Vous avez parlé justement de la France et d'Emmanuel Macron qui négocient un tel accord. Pourquoi l'Union européenne, qui a également fourni des milliards à l'Ukraine en armes et en argent, ne peut-elle pas obtenir un tel accord dans son ensemble?
Vous savez, les entreprises, elles ont une nationalité. Les entreprises ne sont pas européennes, elles sont européennes dans leur marché, dans leur démarche. Mais elles ont un siège social dans un pays donné. Donc il y a des savoir-faire, il y a aussi des capacités de repérage. La France a développé très tôt des capacités satellitaires, n'est-ce pas? La lecture aussi des terrains ne se fait pas simplement par des forages, mais elle se fait aussi par une lecture depuis l'espace. Tous les satellites d'observation de la Terre ont des capacités de détecter des richesses, de sous-sol, des nappes, aquifères, des ressources cachées, entre guillemets. donc par des variations de terrain. Donc voilà, la France est peut-être, là c'est une hypothèse de ma part, en avance sur ce sujet-là, et bon, nous sommes les seuls à fournir une aviation en dehors des accords F-16, par exemple.
Est-ce un nouveau coup de Trafalgar réalisé par Donald Trump à l'encontre de l'Union européenne?
Non, je pense que, puisqu'à partir du moment où les deux sont sur des chemins économiques, des tracés économiques vis-à-vis de l'Ukraine, il n'y a pas a priori d'exclusion de l'un par l'autre. Les deux sont présents. Et puis, il ne faut pas oublier quand même les 120 milliards d'aides militaires déjà engagées et prévues d'être engagées dans le cadre des décisions de la précédente présidence américaine. Donc il y a vraiment une contribution militaire de première importance des États-Unis.
Alors, le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce jeudi que les contacts entre hauts représentants russes et américains initiés sous l'impulsion de Donald Trump donnaient, selon ses mots, de l'espoir en vue du règlement des problèmes dans le conflit en Ukraine. Qu'est-ce que l'espoir pour Vladimir Poutine ?
L'espoir, il n'est pas simplement pour Vladimir Poutine. L'espoir, il est effectivement d'arriver à un arrêt des armes. Pour cela, il fallait que le front militaire soit gelé pratiquement, que les deux antagonistes ou protagonistes, plus exactement, les deux protagonistes, constatent que à quelques kilomètres près, le front ne bougeait plus depuis 18 mois. Donc voilà, à un moment, il faut faire intervenir la raison. Deuxièmement, le poids économique de cette guerre est lourd pour l'Ukraine, mais il n'est pas léger pour la Russie. Donc chacun avait, des belligérants avaient intérêt finalement à se diriger vers cette solution de négociation. Donc c'est un espoir effectivement pour l'économie russe. N'oublions pas que le taux d'intérêt de la Banque centrale en Russie est de 23%. N'oublions pas que l'indice de la bourse de Moscou a baissé de 40% depuis le bruit des armes et l'entrée des forces russes en Ukraine.
Alors, selon le président des États-Unis, l'Ukraine peut, selon ses mots, oublier une adhésion à l'OTAN. Pourquoi Donald Trump ne veut pas de l'Ukraine dans l'OTAN ?
Ouais, je pense, comme je le disais il y a quelques minutes, que pour les Ukrainiens, c'est pas mal d'avoir des industriels américains sur leur sol. Ce n'est pas mal d'avoir des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'ingénieurs et de cadres américains sur leur sol. Je pourrais dire pratiquement c'est un OTAN civil qu'il aurait proposé à la place d'un OTAN militaire. Et ce faisant, il facilite le cheminement vers un accord parce que cette récrimination de la Russie est donc prise en considération, même si elle n'est, selon moi, absolument pas le but de guerre. Le but de guerre, c'était d'éviter que l'Ukraine, rentrant dans un système économique et politique occidental de liberté, élève de façon spectaculaire le niveau de vie de sa population, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Et donc, Vladimir Poutine l'a dit une fois au mois de mai 2023, il ne pouvait pas accepter aux frontières même de la Russie un État slave qui aurait un développement capitaliste et libre. Parce que à ce moment-là, les citoyens russes auraient demandé la même chose. Donc finalement, l'attaque de l'Ukraine par la Russie, c'est une façon pour la Russie de sauvegarder, ou en tout cas pour le système russe politique, mafieux, de concentration oligarchique du pouvoir, et bien du FSB, et bien de garder le contrôle.
Pour terminer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est invité et sera très sûrement présent au sommet spécial sur la défense qui se rassemblera le 6 mars à Bruxelles, sommet spécial de l'Union européenne. Doit-on s'attendre à une nouvelle aide de l'Union européenne à l'Ukraine ?
À partir du moment où on se dirige vers la paix, il n'y aura pas, à mon avis, de package militaire spécial. Tout juste, l'aide militaire sera de consolider ce qui est en place et nécessaire pour un équilibre dans les prochaines semaines. N'oublions pas, disons, le revirement de l'attitude américaine, n'est-ce pas ? Zelensky était traité depuis quelques jours de dictateur. Il avait été foudroyé par Trump parce que Zelensky s'était permis de dire que Trump était au milieu d'un cercle d'influence russe. Et depuis lors, il y a le pouvoir au Kazakhstan qui a fait savoir par le réseau des renseignements qu'effectivement, il y avait peut-être un dossier Trump ou même certainement un dossier Trump au KGB avec le nom de code de Donald Trump, Krasnov. Et à ce moment-là, il y a eu un basculement. N'oublions pas ce qui se passe, je dirais, sous le niveau de l'eau.
Gérard Vespierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. À bientôt sur Radio Judaïka.
À bientôt, merci.